Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, il s'agit aujourd'hui de l'accès à la foi, de l'accès au royaume de Dieu, de l'héritage qui nous est promis. Et il y a toujours une question qui se pose, en cas d'héritage, c'est est-ce qu'il va falloir partager ? C'est ça la question de l'héritage. Or, c'est la question qui se pose aux Juifs ici, et que le Seigneur va essayer de mettre en lumière. Et cette question, elle se poursuit jusqu'à nous aujourd'hui. Voyons donc qui sont les enfants du Seigneur dans l'Église, pour ensuite voir l'extension du royaume de Dieu. Qui sont les enfants du Seigneur ? Le Seigneur paraît assez rude, puisqu'il refuse de faire un miracle, et en plus, non seulement il refuse, mais de manière assez blessante même, il ne veut rien dire à cette femme. Elle n'est pas juive, elle n'a pas la foi des pères, il ne veut pas lui parler, et quand elle insiste, il lui dit que... Alors il y a le mot « petit chien » qui atténue un peu l'insulte de chien, mais enfin, elle lui dit quand même, c'est non, c'est non, c'est non, c'est pas pour toi, tu n'en es pas digne. Alors pourquoi le Seigneur fait ça? Parce qu'il n'est pas bête, il le fait exprès. C'est pour nous faire comprendre quelque chose, le faire comprendre à ses apôtres et nous le faire comprendre aujourd'hui. C'est un peu la même situation qu'à Cana. S'il commence à être assez rude, voire blessant, pour renvoyer cette femme, c'est qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, parce qu'il sait qu'il va réaliser cette demande. Les enfants du Seigneur, eh bien, ce sont ses frères, les enfants d'Israël. Reprenons l'histoire. Vous le savez, depuis le péché originel, eh bien, il y a une brisure entre Dieu et les hommes. Et le Seigneur s'est suscité un peuple pour venir nous visiter. Le peuple d'Israël n'existe que pour ça. D'ailleurs, le peuple d'Israël, au début, c'est rien du tout. C'est une petite tribu, c'est Abraham et sa petite tribu d'Our en Chaldée. Je ne sais pas combien ils étaient, mais mettons qu'ils fussent une centaine, voilà, c'est rien du tout. Et parce que Dieu est puissant, il décide de prendre cet homme en raison de sa foi pour pouvoir lui donner les promesses de la venue du Christ. Et il va se susciter un peuple nombreux. On peut rire, Abraham n'a pas ri, mais on peut rire en entendant sa promesse quand on est un petit troupeau, de dire, voilà, tes descendants, tu ne pourras pas les compter, ils seront plus nombreux que les étoiles du ciel. On peut rire, mais c'est vrai. C'est vrai, et ses descendants continuent de se propager dans le monde. Les promesses de Dieu sont intangibles. Elles se réalisent toujours. Et voilà qu'il a suscité ce peuple pour pouvoir nous visiter. Le Christ arrive dans ce peuple. Il est le Fils de la promesse. Il est le Messie venu parmi nous. Alors la question se pose maintenant, est-ce que ce salut est réservé aux Juifs ou est-ce qu'il est aussi fait pour les nations païennes? C'était la grande question. Mais si on lit les prophètes, eh bien on sait que le Seigneur est venu pour tous, à partir du peuple juif. Car le Seigneur ne fait jamais les choses ni au hasard, ni de manière abstraite. Il nous aime selon un chemin particulier, parce qu'en fait, le véritable amour est toujours particulier. C'est « vous n'aimez pas les hommes », ça ne veut rien dire. Vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants, vous aimez votre époux, vous aimez votre épouse, vous aimez telle personne, vous aimez, etc., etc. Vous n'aimez pas comme ça, ça n'existe pas. Or Dieu, justement, nous aime réellement, donc particulièrement, à partir du peuple d'Israël. Il s'est suscité une porte pour les nations. Et c'est ça qu'il veut faire bien comprendre aujourd'hui dans ce miracle qu'il va réaliser. Les nations, a priori, ne sont pas concernées. Pourquoi ? Parce que les héritiers pensent qu'il ne faudra pas partager. Or, justement, c'est ça le point de renversement. Des deux peuples, le Seigneur n'en a fait qu'un. En lui, tous sont dans le Christ. Alors bien sûr, nous, les descendants des païens, parce que c'est nous les descendants des païens, des nations païennes, eh bien, des gentils, des païens, vous les appelez comme vous voulez dans la Bible, Eh bien, nous avons été greffés sur l'olivier franc du peuple d'Israël parce que nous sommes greffés dans le Christ. Nous ne sommes pas devenus juifs. On aurait pu. Ça aurait pu être le message du Christ de dire, bon ben voilà, le Messie est arrivé en Israël, rejoignez le peuple d'Israël. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Nous le rejoignons, nous sommes greffés sur lui, mais nous restons ce que nous sommes. Nous sommes unis dans le Christ. Juifs et païens, il n'y a plus qu'un seul peuple, ceux qui sont unis au Christ. Voilà ce corps mystique du Christ, ce peuple de Dieu. Peuple de Dieu ne fait pas référence à une organisation politique où la démocratie aurait, je ne sais pas quoi, à voter des choses, parce que c'est ce qu'on entend parfois dans le mot peuple. Peuple de Dieu fait référence à la consistance même de ceux qui sont unis au corps du Christ dans le monde. Le peuple de Dieu, c'est à la fois tous ceux qui sont unis dans le Christ avant lui, tous ceux qui sont unis dans le Christ après lui, tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui sont déjà au ciel, tous ceux qui attendent de voir Dieu au purgatoire, tous ceux qui sur terre ont été incorporés au Christ. Cette promesse d'un seul peuple ne peut se réaliser qu'en lui. Alors, le Seigneur se réjouit de la diversité de ses enfants, car dans le corps mystique du Christ, il y a une infinité de possibilités. Dans l'Église, je le dis souvent, mais je vais vous le redire, nous ne sommes pas une réunion politique, nous ne sommes pas une réunion sociale, nous ne sommes pas une réunion amicale. Ce qui nous unit, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir des amis parmi les paroissiens, c'est bien. Vous pouvez avoir les mêmes idées politiques que d'autres paroissiens, c'est très bien. Vous pouvez avoir les mêmes relations sociales que d'autres paroissiens, les mêmes occupations professionnelles, que sais-je. Tout ça n'est pas mal. Mais ce qui nous unit profondément, c'est le Christ. Ce qui fait que nous avons tous droit à être ensemble dans l'union du Christ, dans la messe, et recevoir le même pain, c'est que nous sommes unis dans le Christ. De toute race, de toute couleur, de toute idée, de toute condition, de toute origine, il n'y en a qu'un. Si vous avez un peu voyagé dans le monde, j'espère que vous avez été émerveillé que où que vous alliez, dans quelque culture, dans quelque latitude que vous alliez, eh bien vous êtes chez vous, dans une église. Quel que soit le prêtre, à condition d'arriver à parler la même langue que lui ou une langue commune, vous pouvez recevoir tous les sacrements. Vous êtes un enfant de l'église, où que vous soyez, parce que vous êtes un seul peuple. Nous ne sommes pas l'association de ceux qui aiment bien Saint-Roch et qui s'y réunissent. Nous sommes les membres du corps mystique du Christ répandu dans le monde à travers les siècles. Voilà ce que nous sommes. Que nous soyons un, que nous soyons 100 000, que nous soyons des millions, la plus grande réunion mondiale sur Terre de tous les temps, c'est une réunion de chrétiens, vous le savez, c'est la réunion pour la béatification de Juan de Diego au Mexique. Pas de réunion qui fut plus grande dans le monde que la réunion des chrétiens. Alors, nous qui sommes si divers, divers même à l'intérieur de notre foi, que vous priez à genoux, debout, assis, que vous priez en latin, en français, en grec, en quelque langue que ce soit, que vous priez dans une église, dans votre chambre, que vous soyez de franciscain, dominicain, ou d'inspiration, que vous soyez, bref, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, que vous préfériez l'abbé Laurent à Saint-Roch, l'abbé d'Augustin à Notre-Dame-des-Victoires, le Monseigneur Chauvet à Saint... On s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, cela n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que nous soyons au Christ. Voilà les enfants du Seigneur dans l'Église. Alors, mon deuxième point est très simple. Cela va se répandre, comme cela s'est répandu. Il y a des conditions. Pour les chrétiens, se répandre, eh bien, c'est les conditions qu'on retrouve ici chez les apôtres. Il nous faut sortir, d'une part, et d'autre part, agir. Il nous faut sortir, c'est le thème cher au Saint-Père, vous le savez, des périphéries. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que nous devons rester ici et puis que l'affaire est faite. Non. Dans un instant, vous allez sortir, vous allez être envoyé en mission, aller dans la paix du Christ, la messe est dite, la mission commence, et vous allez commencer votre mission en sortant sur le parvis, en rencontrant des gens qui ne sont pas allés à la messe. Les promesses de Dieu sont faites pour eux aussi, et vous en êtes les intendants. Comme vous le savez, moi je ne prêche que dans l'Église, je prêche où je peux, sur Internet, je prêche en écrivant, mais je prêche plutôt à ceux qui sont déjà convaincus. Mon rôle n'est pas de vous convaincre, mon rôle est de vous fortifier. C'est vous qui devez convaincre vos amis, votre famille, vos relations, vos rencontres. Les convaincre que ici se trouve la source de la vie, la source de la communion véritable, la source du bonheur. Voilà pourquoi nous nous rassemblons tous les dimanches pour aller porter cette bonne nouvelle au monde. Il nous faut sortir. Renvoie-la, disent les apôtres. Elle nous casse la tête de ses cris. Eh bien oui, le monde nous casse la tête de ses cris. Le monde nous casse la tête avec ses histoires. Le monde nous casse la tête avec ses obsessions. Le monde nous casse la tête, et c'est bien. Il faut que nous ayons la tête cassée, parfois même que nous soyons insultés, pour que nous ayons l'occasion d'entrer en dialogue avec ce monde et lui annoncer la bonne nouvelle. Nous l'attendons, nous avons les promesses de la vie éternelle, le Christ est ressuscité et ils peuvent s'y joindre. Il nous faut sortir. Il nous faut sortir sans cesse, et c'est toujours difficile. Quoi que vous pensiez, quoi que vous soyez emballé par l'idée des périphéries, ou que vous ne le soyez pas, c'est aussi difficile. Dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas, lui parler du bon Dieu, c'est forcément difficile. Renvoie-la, elle nous casse la tête. Et puis, il faut intercéder et sanctifier. Il nous faut intercéder, c'est un peu ce que font quand même les apôtres. Fais quand même quelque chose pour elles. Peut-être qu'on en soit débarrassé. Et c'est notre mission première, prier pour le monde. Prier pour ceux qui n'ont pas la foi. Prier pour tous. La grande prière du Vendredi Saint, c'est celle-ci. On prie pour ceux, pour les chrétiens, pour ceux qui ne sont pas unis à nous, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux, pour les pouvoirs politiques, pour tout le monde. Notre mission est d'intercéder sans cesse pour le monde et aussi de lui porter le pain nécessaire. La foi et la charité sont toujours liées dans l'Église. Je sais bien que dans nos sociétés développées, occidentales, on a tendance à l'oublier. On a séparé la charité de l'annonce de la foi. À l'intérieur de l'Église, l'annonce de la foi, et puis dehors, la distribution du pain. Notre système a tellement bien fonctionné, la foi chrétienne a tellement bien marché, qu'aujourd'hui, c'est même nos États qui s'en occupent, qui s'occupent de loger, qui s'occupent de soutenir les malades, les pauvres, les orphelins, les sans-abri, tous ceux qui ont besoin. Alors nous sommes comme dédouanés de notre charité. C'est une erreur. Contrairement à mes habitudes, je n'ai pas pu aller au Bangladesh cette année puisque l'épidémie a sévi de manière un peu sévère. J'espère y aller bientôt. Et là-bas, on a encore la conscience que c'est tout un. Le curé se doit de soutenir les veuves, de s'occuper des orphelins et d'annoncer la foi. C'est une seule et même chose. Alors soyez inventifs car la charité est inventive. Il ne nous suffit pas de dire, il faut faire. Il faut donner ce pain qui tombe de la table pour donner les miettes, mais donnez-les quand même, afin que le message du Christ puisse s'étendre et que nous trouvions en face de vous, en face de nous, des gens comme cette femme dont la détermination, la foi et l'humilité font l'admiration. Bien sûr, c'est une mère qui intercède pour sa fille et dans ces conditions, tout est permis. Eh bien, que nous puissions trouver en face de nous des gens affamés qui ont besoin qu'on leur annonce le Christ, qui ont besoin qu'on les aide. Quelle chance avons-nous d'en trouver sur notre route, car c'est notre mission essentielle de porter le Christ dans le pain et dans la parole afin qu'ils vivent tous éternellement en un seul peuple de chrétiens. Ainsi soit.